RFI, 8h30 à Paris, il est 7h30 en temps universel. Le journal, Sébastien Duhamel.
Et ce journal qui débutera à Bukavu, dans l'est de la RDC, où le M23 soutenu par le Rwanda est entré dimanche sans grande difficulté et où le quotidien redémarrait lentement dans un calme relatif hier. L'est de la RDC où de nombreux habitants ont quant à eux choisi de fuir vers le Burundi ou le Rwanda, vous l'entendrez. La situation politique instable du Soudan du Sud, ensuite avec ce regain de tension et ces nouveaux combats constatés ces dernières semaines entre l'armée du président Salva Kiir et les forces de l'opposition du vice-président Riek Machar. Le secteur pétrolier appelé à redémarrer de plus belle à Madagascar. Le gouvernement y voit une source de revenus à développer et annonce un projet de relance. Et puis cette autre annonce en Centrafrique, face aux inondations à répétition qui frappent l'île aux singes sur la rivière Oubangui, le gouvernement prévoit une relocalisation des habitants sur un autre territoire. Un calme relatif donc hier à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, qui vit sous occupation depuis dimanche du M23, soutenu par le Rwanda. Les habitants ont donc commencé à sortir de chez eux hier pour reprendre tant bien que mal leur vie quotidienne dans une ville qui n'a pas connu de combats intenses, comme ce fut le cas à Goma, au nord Kivu, où les Nations Unies ont recensé près de 3000 morts. Alors sur place, à Bukavu, Josué Kayeye, acteur de la société civile, exprime un certain soulagement sur ce point. Écoutez son témoignage.
Je suis personnellement soulagé que les choses se soient passées comme telles et qu'il n'y ait pas eu ce genre de dérapage. Pour l'instant, nous pouvons dire que le sentiment est partagé parce que, avec leur entrée, on a eu à stabiliser la confusion qui régnait déjà depuis jeudi dans la ville, qu'il y avait déjà une cacophonie où tout le monde pillait, tout le monde faisait tout ce qu'il pouvait faire et tout ce qui avait des armes, les civils ou les autres malfrats qui avaient des armes faisaient la loi. Donc, ils ont restauré un tout petit peu l'ordre. En tout cas, cette peur n'est plus parce qu'on craignait plutôt les affrontements. Donc, la peur qui peut exister, c'est plutôt une peur relative à ce qui pourra suivre. Donc, on reste encore très observateur. En tout cas, le sentiment est partagé pour l'instant.
Soulagement tout relatif et sentiment partagé donc pour cet habitant de Bukavu, on vient de l'entendre, mais l'avancée du M23 au sud Kivu a tout de même provoqué d'importants déplacements de population. Hier encore, plusieurs centaines de personnes ont franchi la frontière rwandaise depuis le territoire de Kamanyola à une quarantaine de kilomètres au sud de Bukavu pour rejoindre la ville de Bugarama où s'est rendu notre envoyé spécial Lucie Mouillot.
Quelques affaires à la main, Chigashama sort de l'église transformée en centre d'accueil pour les réfugiés de Kamanyola avant de monter dans un bus en direction de Bukavu.
À Kamanyola, on entend les crépitements de balles. Et quand on entend des tirs, il faut fuir. C'est pour ça qu'on est parti.
Selon les autorités, près d'un millier de personnes ont traversé ce lundi la frontière de Bugarama, restée fermée ces deux derniers jours. De nombreux habitants parlent de tirs et de pillages à Kamanyola. Béatrice Bakolé-Kone n'a presque rien pu emporter avec elle.
Je n'ai que ce sac et ces habits. Je vais en vendre certains pour avoir un peu d'argent parce que je n'ai rien. Ma famille est à Bukavu, je suis toute seule.
Après l'entrée ce dimanche du groupe armé du M23 à Bukavu, certains habitants craignent que des affrontements descendent au sud de la capitale provinciale jusqu'à atteindre Kamanyola.
On ne pouvait pas rester à Kamanyola alors que nous voyons que peut-être c'est là où va se passer la totalité de la guerre, quoi. Ils sont là, ils se préparent pour la guerre et nous, la population, on craint les bombes parce que les militaires burundais sont là et qui sont prêts pour se battre. Mais la population a peur, c'est pourquoi nous avons traversé la frontière.
La majorité des arrivants continuent leur route vers Bukavu, Goma. Plusieurs milliers de personnes avaient déjà fui Kamanyola ces derniers jours en direction du sud, notamment au Burundi. Lucie Mouillot, de retour de Bugarama. RFI.
Des personnes réfugiées au Burundi, on vient de l'entendre, elles sont près de 10 000 au total, chiffre communiqué hier par les autorités burundaises. Pendant ce temps, plus au nord, le chef-lieu du Nord, Kivu, Goma, vit lui sous occupation du M23 depuis plus de 3 semaines maintenant. Et sur place hier, des jeunes proches du groupe armé ont organisé une manifestation devant les bases de la MONUSCO, la mission onusienne, invités à partir comme les autres forces internationales. Des manifestants réclamant également l'évacuation immédiate des soldats congolais qui se seraient réfugiés réfugiés justement sur les sites de la MONUSCO. Récit de Sabine Mellé.
La manifestation est organisée par des jeunes proches du M23, soutenus par le Rwanda. Ici, les messages sont clairs. Les calicots affichent en toutes lettres « Nous exigeons le départ des forces SAMI-RDC ». Pour les manifestants présents, il n'y a pas de concession possible.
La population de Goma a compris que la présence des éléments FRDC au Azalène, parce que n'importe quand, ils peuvent se rebeller et les armes sont encore gardées dans les dépôts des cas de MONUSCO, donc ils peuvent les récupérer et qu'il y ait encore des probabilités de guerre en ville.
Si on peut les lâcher pour qu'ils puissent partir, parce que ça présente déjà un danger pour nous, on ne sait pas pourquoi on les garde dans les camps de la MONUSCO. Ce sont des soldats, ne sont pas des civils. Nous demandons la sortie d'urgence immédiate de ces gens.
À l'aéroport international de Goma, devant la mission de l'organisation de l'ONU, même son de cloche, Olivier Loba est fermement déterminé à ne rien lâcher jusqu'au départ de la MONUSCO.
Si la MONUSCO ne répond pas à notre demande, ça veut dire que nous allons rester là-bas. Nous continuerons à faire des sittings afin que ces gens puissent sortir. Parce que ce n'est pas la MONUSCO qui est en danger, c'est la population gomaine qui est en danger.
Des centaines de militaires des FARDC et leurs alliés Ouazalendo seraient dans ce camp. Ici, les relations entre la MONUSCO et les M23 sont tendues.
Sabine Mellé. Malgré un accord de paix conclu en 2018 après une guerre civile débutée 5 ans plus tôt, la situation politique du Soudan du Sud reste pour le moins instable, avec à nouveau des combats signalés ces dernières semaines dans plusieurs régions, opposant l'armée soudanaise dirigée par le président Salva Kiir aux forces de l'opposition, loyale quant à elle au vice-président Riek Machar. Dans le village de Nassir, notamment dans le nord-est du pays, ces combats ont provoqué la fuite de nombreux habitants. Mais les belligérants, Florence Mietto, se rejettent mutuellement la responsabilité de ces nouvelles tensions.
Chaque camp donne sa version. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise du président Salva Kiir accuse les forces armées de l'opposition de constamment inciter les jeunes armées. Mais le commissaire du comté de Nassir, membre du parti de Riek Machar, accuse l'armée sud-soudanaise d'avoir lancé une attaque sur des civils dans le marché, provoquant de lourds combats, a-t-il déclaré. Et si les combats de Nassir n'opposent pas directement l'armée sud-soudanaise aux forces de l'opposition, mais plutôt à de jeunes civils armés, ils ont lieu dans un contexte particulièrement tendu. En effet, depuis début janvier, chacun s'accuse d'être à l'origine des tensions et la presse locale en fait largement écho. Selon le militant de la société civile Termanyang Gatwech, les activités de recrutement de l'armée sud-soudanaise sont perçues comme, et je cite, une manœuvre stratégique. Pour Edmund Yakani, autre représentant de la société civile, ces combats vont à l'encontre du cessez-le-feu. Il craint que le pays ne replonge dans une guerre civile à grande échelle. Les combats de Nassir rappellent l'urgence de l'application de l'accord de paix de 2018 qui prévoit la création de forces armées unifiées de plus de 80 000 soldats. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Le gouvernement malgache à présent confronté aux difficultés financières mais qui veut relancer le secteur pétrolier de la Grande Île. La délivrance de permis sur place est gelée depuis 6 ans alors que Madagascar dispose d'un large bassin sédimentaire, ce qui veut dire concrètement espoir de gisements d'hydrocarbures. Mais pour l'heure, seule une entreprise, Madagascar Oil, dispose encore d'un bloc pétrolier. Or, elle ne l'exploite plus depuis 2016, faute de moyens. Alors, le gouvernement malgache veut donner une nouvelle impulsion pour attirer les investissements et relancer les explorations. Sarah Teto.
Les études menées jusqu'à présent sur et autour de l'île ont montré un vrai potentiel en matière de pétrole, gaz naturel, huile lourde et grès bitumineux, affirme Olivier Rakoutmalal, le ministre des Mines. Aussi, Madagascar ne doit pas manquer le coche.
L'énergie fossile joue encore un grand rôle dans le mix énergétique mondial. Les récentes découvertes d'hydrocarbures au niveau de l'Afrique de l'Est, Mozambique, Kenya, Tanzanie, ça a suscité un grand intérêt au niveau de l'investissement en termes d'exploration. Bien évidemment que les annonces du président Trump au sujet du forage pétrolier ne font que renforcer la décision du gouvernement à relancer le secteur pétrolier amont.
Seulement, pour pouvoir allouer de nouveaux blocs pétroliers, l'État doit d'abord assainir l'existant, à savoir 22 blocs déjà attribués et qui appartiennent toujours juridiquement juridiquement à une quinzaine d'entreprises internationales.
Ces blocs pétroliers ont été attribués à partir des années 2000 par décret présidentiel. Pour libérer ces blocs, nous devons prendre un décret pour pouvoir les annuler et pouvoir de nouveau attribuer ces blocs à des nouveaux investisseurs. Nous devons aussi mettre à jour le modèle de contrat de partage de production pour le rendre beaucoup plus équitable et qu'il réponde mieux aux attentes environnementales et sociales qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans.
Le ministère espère annoncer la réouverture des blocs pétroliers au plus vite. Plusieurs grandes majors ont déjà fait part de leur intérêt. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Une mesure en Centrafrique pour faire face aux inondations récurrentes sur l'île aux singes. L'île Mbongosoa, nichée au milieu de la rivière Oubangui, entre la capitale Bangui et la ville de Zongo en RDC. Un territoire peuplé de quelques 2000 âmes, confronté chaque année désormais à la montée des eaux. Le gouvernement centrafricain a donc entendu le désarroi des habitants. Il annonce leur délocalisation et leur relogement dans un autre territoire. Il faut dire que sur place, la vie est aujourd'hui très compliquée. Reportage, Rolf-Steph Domialeux.
Pour montrer les dommages causés à leur domicile, les habitants doivent escalader les amas de pierres, de briques, de bois et des morceaux de tôle. Patrick vit avec ses parents dans une maison partiellement effondrée à quelques mètres de la rivière Oubangui.
Les maisons, tout est cassé, on n'a plus rien. Même nos pirogues, les filets, tout est volé. Presque 117 maisons qui sont détruites de l'île de Mbongisoa. Il n'y a plus de maisons.
Au milieu des décombres, dans le silence d'une île dévastée, Ludovic Lair Égaré vit depuis plusieurs mois à ciel ouvert sous un manguier.
L'île Mbongosoa n'est plus habitable. Toutes les activités économiques, les écoles et les hôpitaux sont à terre. Nous voulons une relocalisation pour nous permettre de reprendre nos activités comme la pêche, l'élevage et le jardinage.
Pour venir en aide à ces familles, le gouvernement et ses partenaires ont mis en place un vaste projet. Josiane Bemakasui est ministre de l'Action humanitaire.
Le ministère de l'Urbanisme nous a octroyé un site de 150 hectares sur la route de Mbaïki à 35 km de Bangui. Et cela va nous permettre de délocaliser ces sinistrés de l'île Mbongosoa. Nous avons déjà eu un financement avec la Banque africaine de développement. Nous sommes en train de travailler pour la construction des logements sociaux.
Selon le gouvernement, 226 logements sociaux seront construits dans 2 mois pour accueillir ces habitants. Rolf Esteve Domialeux, Bangui, RFI.
Bangui, où se referme donc notre journal, mais notre matinale continue bien sûr avec Nemo en piste.